Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Anissa Haddadi, Thomas Hill.
Bonjour à tous et bienvenue au club. Quel bonheur d'être avec vous pour deux heures de bonnes idées pour rendre votre été encore plus beau. On va parler médias et culture, ça vous en avez l'habitude avec Philippe Vandel, mais on s'intéressera aussi à tout ce qui se passe partout en France cet été. Et pour m'aider dans cette mission de haute volée, j'ai la chance d'avoir à mes côtés le soleil d'Européen.
Ah, rien que ça, Anissa, c'est Haddadi. Gentil.
C'est Julien Bugier qui
oui,
l'a dit la semaine dernière.
Je
lui pique. Ça va, Anissa?
Ça va très bien, Thomas. C'est un bonheur d'être à vos côtés, c'est un bonheur de vous accompagner tout cet été sur Europe 1 dans ce club de l'été.
Bah oui, parce qu'avec Anissa, on va se relayer tout l'été pour animer cette émission, mais cette semaine, bon, il se trouve qu'on était tous les deux dispo, alors on s'est dit qu'on allait la faire en binôme.
Ouais, c'est plus sympa à deux quand même. Alors oui, nous serons encore plus nombreux dans ce studio parce que Louise Bernard va nous rejoindre pour nous parler de la mini-série Mare of Easton. C'est un bijou de la chaîne américaine HBO, ça passe sur OCS en France et on a très envie de la voir et vous allez avoir envie de découvrir cette série aussi. Nicolas Caro sera là pour nous parler des formats courts en littérature, des petites nouvelles à lire comme ça, d'une traite à la plage sur le transat. Et puis Angèle Châtelier sera en direct du Festival d'Avignon qui démarre aujourd'hui.
Dans un instant, notre coup de fil média sera pour Laurent Luya, le champion du sport sur France Télé. On parlera avec lui bien sûr du Tour de France et des JO qui arrivent à grands pas. Et puis attention, il est là dans ce studio en chair et en cheveux. Quel bonheur de recevoir pour cette première un homme qui a absolument tous les talents. Il est acteur, humoriste, chanteur, scénariste, mais aussi parfois ostéopathe, dresseur de faux ou joueur de claquettes. Max Boublil est avec nous jusqu'à 11h. Merci,
merci
d'être là,
Max.
Bonjour, Max.
C'est gentil. Quel brosse à reluire, ça fait plaisir. Ça fait du bien.
Je
me souviens quand j'arrivais dans les radios, dans les promos, quand j'avais 20 ans, on me disait il fallait que je redise mon nom deux, trois fois. Et tout. Aujourd'hui, j'ai le droit à des superlatifs et tout. Je suis très, très. Ben, merci beaucoup.
Ça nous permet de sortir les dossiers après, c'est ça?
Oui, d'accord. Ok, ouais. Ok. Ah. C'est pour mieux brosser.
Bah, oui, c'est ça l'idée. Vous savez pas ce qui vous attend, Max, parce qu'on va parler de toutes vos activités. Et en particulier de votre spectacle, le nouveau spectacle, avec un été chargé, des dates qui arrivent, les deux dernières à Paris, ouais, qu'on attend au Théâtre de la Renaissance. Et puis surtout de votre été, on a envie de vous imaginer en short, en tongs, on a envie de vous imaginer en train d'allumer le barbecue, on a envie de tout savoir sur ce que vous faites. Vos coins fétiches, vos après-midi au manège d'Arcachon avec vos filles.
Ouh là là. Arrêtez de faire rêver les gens. Les gens se rendent compte que je suis vraiment triste.
Non.
Et vieux.
Non, bah surtout s'amuser avec vous jusqu'à 11h.
Le manège du jardin d'Arcachon, ça peut foutre un petit cafard
c'est
aussi.
Vrai.
Hein,
c'est
ça
vrai.
Peut mettre un peu la rasera comme
vous. Vous pouvez nous raconter vous aussi ce que vous allez faire cet été. Partagez avec nous et avec Max Boublil vos coups de cœur culturels, vos idées de sortie en nous appelant au 3921. Ou avec le hashtag Europe 1 sur Twitter.
Le club de l'été, deux heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Comment ça va, Maximilien?
Ça commence, c'est bien, j'aime bien.
Il y a encore des gens qui vous appellent comme ça ou pas?
Est-ce qu'il y a des gens qui m'appellent Maximilien? On m'a jamais. Personne ne m'a vraiment appelé. Les mots ne sortent pas dans l'ordre.
Hein.
C'est comme ça sur le spectacle.
Il est beaucoup trop tôt, 9h14.
Il est très tôt. Non, pourtant, je suis levé souvent parce que j'amène souvent, mais j'apporte, j'allais dire, comme des meubles, mes filles à l'école. Non, très peu de gens m'ont appelé Maximilien tout au long de ma vie, mais je pense que c'est un délire de ma mère à la naissance et après, elle s'est dit, on va jamais l'appeler.
Ouais, c'est ça.
Tout le monde m'a appelé toujours Max.
Ça, ça vous va beaucoup mieux, Max.
Ouais.
Alors vous allez jouer, on le disait.
Les talons de Belleville, enfin. Bon,
vous allez jouer les dernières de votre nouveau spectacle intitulé Nouveau spectacle. Ouais. Vous l'avez écrit l'an dernier, c'était juste avant le confinement.
Ouais.
Vous avez eu le temps de le jouer, ce spectacle, du coup?
Je l'ai joué quand même. Je l'ai joué à l'Européen pendant un mois et demi et ça se passait très très bien. Ça faisait 6 ans que j'étais pas monté sur scène. Et je me suis pris une pandémie dans la gueule au moment de le jouer. Mais
surtout que j'imagine qu'au bout de 6 ans, il y a un peu de stress quand même. Hein.
Ah, il y avait du stress, on a bossé comme des malades, le spectacle s'est amélioré au fur et à mesure. Il y avait des gens qui nous disaient il faut pas retourner sur scène, tu fais du cinéma, tu fais de la télé, ça sert à rien et tout. Et quand même, j'ai fait les rodages, on a mis un petit peu ce qu'on appelle dans le métier nos coronets sur la table et tout. Et
bien
ça commençait à prendre, ça commençait à marcher, les gens étaient de plus en plus contents, les résas montaient. Enfin, tu sentais que le spectacle prenait,
et
bam, pandémie dans la gueule. Et c'était incroyable de se retrouver du jour au lendemain, voilà, chez soi.
Votre premier show, c'était un one-man musical.
Ouais.
On se souvient tous, évidemment. Évidemment, de votre titre devenu culte.
Oh, ce soir, tu vas prendre.
Ah oui, on est obligé.
Mais je comprends très bien.
Comme si je sortais de prison.
Putain.
Voilà, si vous nous rejoignez, vous êtes bien sûr Europe 1.
J'étais genoux à l'époque.
N'empêche que c'est la chanson quand même qui a fait décoller votre carrière. C'est fou de se dire ça d'ailleurs, que ça tient à une fulgurance comme ça, une bonne idée. Oui. Vous vous souvenez où vous l'avez eu cette idée?
Je me souviens que j'ai eu avec mon ami Anthony, avec qui on a fait Les Gamins.
Après, Anthony Marciano.
Avec qui on a fait Play, Anthony Marciano, pardon. Ouais. Et un jour, on s'est dit, ouais, ça serait drôle de faire une chanson. Et moi, je me disais, voilà, il y a trois personnes qui vont rire à cette blague et tout ça. Il faut dire que c'était une autre époque aussi. C'est-à-dire que je commence à parler comme Michel Sardou. Putain. Je commence vraiment à être vieux.
On est limite Michel Drucker là.
Limite Michel Drucker. on se disait, ça va faire rire 2-3 personnes. On l'avait mis sur internet et ça avait. C'était dans les premiers buzz. On appelait ça buzz à l'époque. Et Michel Sardou.
Ça a abusé.
Ça a abusé fort.
Un des premiers youtubeurs, ça a cartonné. Alors Max Boublil, on va découvrir dans un instant si vous chantez dans votre nouveau spectacle. Vous allez nous parler de votre nouveau spectacle avec votre guitare, puisque vous êtes venu avec. Retenir, à Nice, au Théâtre de la Cité, c'est jeudi et vendredi.
Je ne suis pas, parce que en fait, je vais partir directement à Avignon.
Avignon.
Je pars à Avignon.
Donc du 11 au 16.
Dimanche, ouais, c'est ça, du 11 au 16. 11 à 16 et après Avignon. Les deux dernières dates à Paris, des dates qu'on va capter, voilà.
Et 19 et 20 juillet au Théâtre de la Renaissance à Paris.
Et c'est les deux dernières, vraiment, il faut venir. Ces deux dates, ça va être le feu. Il y aura une surprise à la fin. En plus, il y a quelqu'un qui va venir nous faire une petite surprise. Mais je peux pas dire qui c'est, sinon plus une surprise.
Non, il faut venir vous voir. Théâtre de la Renaissance, 19 et 20 juillet. Oui. On parlait musique il y a un instant. Vous êtes un grand amateur de musique et vous le savez. Dans un instant, vous aurez droit à votre portrait musical, Max Boublil. Mais on a des pépites. Mais avant cela, vous savez qu'on offre un cadeau à nos invités, toujours en début d'émission. Et voici le premier, c'est de la musique, et c'est rien que pour vous, vous allez reconnaître, je crois que vous vouliez être lui quand vous étiez jeune.
Ah, j'imagine.
Voici Nirvana sur Europe 1.
Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi, Thomas Hill.
Et oui, on est là, de retour pour le club de l'été avec l'acteur, humoriste,
sénateur, député.
Je voulais partir sur scénariste. Chanteur de charme.
Chanteur de charme.
Max Boublil.
Pour damager. Tout à fait. Comme André Rieu. Tout à fait.
Bon, alors Max,
qui ne chante pas d'ailleurs, André Rieu, qui fait
qui
du violon.
Joue du violon. Ça,
du violon mais pour les damagés.
Pour tout type de public.
Très peu de public lycéen quand même chez André Rieu.
Très peu, mais.
Je ne sais pas pourquoi j'ai ramené André Rieu sur la table.
C'est vrai que c'est rare d'entendre des tubes d'André Rieu dans les cours d'école.
On est d'accord. Bizarre en soirée, t'imagines des jeunes, attends, je te mets un petit André Rieu.
Allez, on vous l'a promis, votre petit portrait sonore, des sons qu'on va commenter tous ensemble. Voici le premier.
Bien sûr, je sais pourquoi. J'ai le droit de parler. Hein.
Bien sûr.
Pourquoi alors ?
Parce que j'ai joué dans le Sous le Soleil quand j'avais 17 ans.
Les gens ne savent pas ça.
Non, et on peut retrouver des images.
C'est un personnage de mafieux, je crois.
Non. En fait, moi, j'étais au lycée de Sous le Soleil. Parce qu'à un moment, ils ont dit, tiens, on va faire un lycée dans Sous le Soleil. Bon, c'est le lycée le moins crédible du monde, hein, évidemment, avec des jeunes bodybuildés. J'étais réparateur de bateaux offshore et mon père était mafieux. J'étais pas content, j'étais en rébellion contre mon père mafieux.
Ah ouais, ouais. Donc rôle de composition. Et alors, ça fait quoi de jouer aux côtés de Bernard Montiel?
Bernard Montiel. Alors, Bernard Montiel, il n'était pas encore dedans, Bernard Montiel. Je l'ai croisé en vacances, Bernard Montiel. J'ai dîné une fois avec Bernard Montiel, alors, si tu veux tout savoir.
Ah, on connaît du bon.
Très souriant, mais une sacrée langue de bûche.
Ça lui fera plaisir.
Il a sorti des doses.
Six mots pour tout le monde.
D'accord.
On vous salue, Bernard.
On embrasse Bernard.
En vrai, est-ce que vous avez eu peur de rester un peu coincé dans ce genre de série?
Ah oui, j'avais 17 ans, donc j'avais le droit de faire de grosses erreurs. Puis j'étais content de tourner, tu vois, j'avais pas d'argent, c'était mes premiers boulots. Et je suis pas resté très longtemps, et c'est après que j'ai commencé à faire mes spectacles un peu plus tard et tout ça. Mais là, je faisais ça vraiment en tant que jeune pour me roder. J'étais très content d'avoir du travail à cette époque.
Ouais, surtout que c'était une série qui a été très vue, qui a été vendue dans le monde entier. Donc c'est un carton.
Après, c'est vrai que c'est qualitativement sur le jeu d'acteur et tout. Quand je vois ce que j'ai fait, vraiment, je me serais payé des cours de théâtre. Là, j'avais envie de me dire, mec, va retourne à l'école, quoi, travaille quoi.
Le deuxième son de votre portrait sonore.
C'est
quoi les boys, my
girl? C'est Booba.
Avec Barbie Girl.
C'est une reprise de Booba. Il fait pas mal de reprises en ce moment. Booba, il a repris aussi France Gall. Bon, c'est resté assez confidentiel. C'est resté uniquement sur Twitter, hein, sur les réseaux sociaux. C'est pas une grande réussite. Mais vous racontez dans votre spectacle que votre fille de 3 ans et demi, la deuxième, est fan totale De Booba.
Je comprends le lien. Je comprends. En fait, j'ai une petite. En fait, j'ai deux filles. J'ai une grande qui a 8 ans et qui est plutôt très douce, qui a un peu la tête dans les étoiles et qui est un peu rêveuse et tout ça. Et une petite qui est très, très méchante. Et c'est vrai que la dernière, elle est genre, c'est un petit diable. Elle écoute du rap, elle répond, elle ment.
Qu'est-ce qu'elle dit sur le réchauffement climatique, votre deuxième fille?
Non, parce qu'à un moment, elle rechantait. C'est vrai qu'elle rechantait parce qu'il y avait un refrain de Booba. Je lui mettais du Booba et j'aimais bien parce qu'on faisait des mouvements comme ça avec la tête. Bon, c'est pas très radiophonique, évidemment.
Non, on l'a.
Il y avait un refrain dans une chanson de Booba qui disait « Le réchauffement climatique, c'est dû à la chatte à ta mère avec l'effet de serre. »
Ah, d'accord.
Et c'est vrai
qu'elle
le chantait. Et
elle a grandi plus vite que la norme.
Ouais. Elle est drôle. Elle est très marrante, mais c'est un petit diablotin. Ouais.
Allez, un autre petit son. C'est ce que vous reconnaissez, ce générique. Oh. On est toujours là pour rappeler les bons souvenirs.
Oui, Grand Journal, passage éclair au Grand Journal.
Une semaine, c'est ça?
Non, 3 semaines.
C'est pour vous votre plus gros bide, hein, vous l'avez déjà raconté. C'était un moment très très dur.
En fait, il y a un moment qui était particulièrement dur, c'était la rentrée du Grand Journal qui était très regardée à l'époque. Et on s'était dit avec mon copain d'époque, Anthony Marciano, qu'on allait faire une chanson pour la rentrée de l'époque. C'était l'invité, c'était Vanessa Paradis. Et c'était une chanson qui s'appelait L'amour à 2, L'amour à 3, L'amour à 4. C'était évidemment une chanson blague. Tu vois, L'amour à 4, ça aide à digérer les pâtes, des trucs comme ça. Et à chaque refrain, je rajoutais L'amour à 5, L'amour à 6. Normalement, c'était clair. J'étais stressé, la guitare elle sonnait pas, ça faisait clang, j'étais la bouche sèche et tout, et je commence ma chanson et je sens que voilà, elle me regarde gentiment avec beaucoup de bienveillance, mais bon, et à la fin je sens que ça a pas trop marché, et à la fin elle a cette remarque, voilà, Denisot qui lui dit Alain, Vanessa, tout de suite Vanessa Paradis, elle dit c'est très courageux pour un jeune chanteur de venir faire ses débuts au Grand Journal, donc elle a pas compris que c'était une vanne, et donc tout est tombé à plat, voilà.
Ah ouais, elle a cru que vous étiez un vrai chanteur en galère.
Un vrai chanteur en galère.
Aïe, aïe, aïe.
Et c'est à cause de ça que ça s'est terminé?
Non, c'est ça, plus d'autres choses qui étaient... C'était vraiment le grand journal du bide.
Et dans un portrait sonore, il faut un peu de musique et vous êtes venu avec votre guitare, Max. Est-ce que vous pourriez nous faire la promo de nouveaux spectacles avec votre guitare? Parce qu'on a vu passer ça sur Instagram.
Mais ouais, mais j'ai fait ça en délire, alors je saurais pas quoi faire. Mais ça va mettre une heure.
C'est bien, on a
déjà
30 secondes.
Que je fasse
tourner
des accords,
dans pas longtemps.
Long. trop long. Je sais pas quoi faire. Attends, je vais trouver. Oh, ça sort pas bien. Venez me voir. Venez me voir ce soir. Tu vois, ça va être très long, ça va être très chiant.
On est vraiment sur le chanteur de charme.
On est vraiment sur Europe 1. Je suis comme un gamin pour vous parler de mon spectacle qui va avoir lieu au théâtre de la Renaissance le 19 et 20 juillet. Spectacle mouvementé. Bon, tu vois, ça va être trop long.
C'est bien, et pour une impro, ça sonne bien. Accompagnez-nous,
vous nous faites un petit soutien musical.
Tu veux un petit soutien musical?
Alors, ça peut nous aider.
Je te fais tourner 4 accords.
Voilà, 4 accords. 4 accords d'arpège. Pour vous dire que dans un instant, notre premier indispensable de l'été, c'est Louise Bernard qui vient nous parler d'une série que vous allez adorer, Max, j'en suis sûr. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi, Thomas Hill.
De retour dans le club de l'été de Max Boublil. Max Boublil, l'acteur, le penseur, le jouisseur de la vie.
Le sénateur aussi.
Le sénateur en larmes ce matin.
Relatif, là.
Beaucoup d'infos ce matin sur Europe 1. Et aussi, paraît-il, le fan de séries. Il paraît que vous êtes un très très gros consommateur.
Ouais, bah, comme tout le monde, un petit
de
peu plus ou moins. Ce serait curieux de pas l'être aujourd'hui.
Vous avez une petite série là comme ça
moi,
à nous recommander
très,
pour l'été?
Alors pour faire plaisir à ma femme, j'étais très Handmaid's Tale. J'ai regardé la dernière,
dur, hein.
Un tout petit peu moins charmée que la première, j'ai vraiment pris dans la gueule.
La Servante écarlate.
La Servante écarlate, exactement. Quelle mauvaise traduction.
Bizarre.
Impossible.
Le nombril de Larry aussi, vous aimez bien cette série.
Ouais, tu vois, les titres en français, c'est toujours un petit peu dur. Le nombril de Larry, c'est Larry et son nombril, qui est une série où c'est l'auteur de Seinfeld, justement, qui est très amer dans la vie et qui a des points de vue et qui me fait beaucoup rire. J'en ai très très mal parlé.
Prenez de quoi noter, Max Boublil, parce que Louise Bernard nous a rejoint. Bonjour Louise.
Bonjour,
salut,
bonjour
Louise.
Tout le monde.
Vous allez nous recommander une série en l'occurrence une mini-série, ça s'appelle Mare Easton.
On n'avait pas de traduction en français, donc on garde le titre original. Je viens de la finir, c'est un petit bijou, hein, pas une de ces séries complètement addictives, avec 1000 rebondissements et suspense insoutenable à chaque fin d'épisode, qui vous font dévorer toute la saison d'un coup. Non, c'est une série qui se déguste, une série d'une très grande qualité, mais avec un peu de suspense quand même. À moi de vous convaincre de regarder ces 7 épisodes. Premier argument, il est pour vous, Max Boublil, il s'agit du même réalisateur que The Leftovers, série que je crois que vous avez adorée, vous ne l'avez pas citée, dommage, mais ouais. Je me suis renseignée.
Ouais, c'est vrai.
Le thème de Leftovers, la musique,
le piano,
le piano peut me donner des frissons. Tu peux me faire un gros plan, tu mets la musique des Leftovers, je peux te faire la larme qui coule.
Alors, on n'est pas à la télévision, mais
on n'est pas là. Le mec ne comprend pas où il est.
Écoutez, Max.
C'est dommage, je mets la larme qui coule. La larme,
c'est vrai que c'est
formel. Un tout petit peu humide. La larme se forme au coin de l'œil et elle glisse lentement le coin de la joue. Ça va être très long, il dure 7 minutes.
On va faire
le fait que c'est pas très radiophonique.
On quitte The Leftovers, retour à Mare of Easton. Deuxième argument qui pourrait être l'unique argument tant il est important, l'actrice qui incarne le rôle principal, c'est la formidable Kate Winslet. Elle porte véritablement la série, elle joue divinement bien. Interprétation d'ailleurs largement saluée par la critique française et américaine.
Et alors c'est quoi son rôle alors?
C'est celui de Mare Sheehan, c'est une détective de police qui vit et travaille dans une toute petite ville de Pennsylvanie, Easttown. D'où le titre, hein, Mare of Easttown. Une toute petite ville rurale, et puis c'est une flic un peu torturée, très nature, jamais maquillée, toujours avec sa parka kaki, son jean et ses chemises à carreaux trop larges pour elle. Elle habite avec sa mère, sa fille et l'enfant de son fils décédé, vous suivez. Son voisin, c'est son ex-mari qui vit avec sa nouvelle fiancée. Elle tire frénétiquement sur sa cigarette électronique quand elle ne boit pas une petite bière. Bref, une vie personnelle un peu bordélique, il faut le dire. Alors elle se raccroche à son boulot. Là non plus, ça n'est pas la joie. Elle commence à avoir un peu la pression parce que ça fait un an qu'elle tente de résoudre une enquête. La disparition d'une jeune fille de la ville, sans succès. Et puis dans cette petite ville, les habitants n'hésitent pas à l'appeler directement sur son portable au moindre problème au lieu de passer par le poste de police. Comme cette vieille dame qui l'a fait venir à l'aube pour se plaindre d'avoir vu un rôdeur près de sa maison.
Je tenais à vous prévenir tout de suite pour que vous interveniez vite pour protéger le reste de la ville au cas où ce pervers serait encore dans la nature.
Oui, d'accord. Enfin, la prochaine fois, appelez juste la centrale. Vous avez le numéro ?
Non, je m'en souviens pas. Mais j'ai confiance en vous. Si j'appelle le poste de police, je sais pas qui ils vont m'envoyer.
Je comprends bien, mais moi je suis sergent chargé des affaires criminelles. J'enquête sur les cambriolages, les overdoses, vous voyez ce que je veux dire? Les trucs vraiment graves qui se passent dans les environs.
Dites donc, c'est affreux. Peut-être que vous devriez réfléchir à changer de boulot.
Voilà, et on en vient au troisième argument pour regarder cette série. C'est cette ambiance de petite ville où tout le monde se connaît, où mère connaît tout le monde. Elle croise sans cesse la mère de cette jeune fille disparue. Ses amis se retrouvent mêlés à des histoires dans lesquelles elle est bien obligée d'intervenir. Le tout sur fond de traumatismes familiaux, d'adolescents pas encore majeurs mais déjà parents. C'est une série écrite par un scénariste originaire de là-bas, tournée sur place, et Kate Winslet a passé du temps en immersion dans le commissariat local. Elle a même travaillé son accent rural pour être la plus crédible possible. Elle est britannique, hein, Kate Winslet, et là, pour les amateurs de version originale, c'est subtil, mais vous allez entendre qu'on est loin du bel accent anglais.
You here to guilt me into returning to the church again, Danny?
No. I gave up on that a while ago.
You've been watching him out there? He's jumping off that thing like it's a diving board.
Voilà, l'immersion au sein de cette petite ville de Pennsylvanie est totale.
Bon, au niveau scénario, est-ce qu'il y a quand même des rebondissements, Louise? Vous nous promettiez du suspense.
Oui, je vous l'ai promis, tout à fait, car Easton va être le décor d'un autre drame qui va secouer la ville. La mort d'une jeune mère de 17 ans, une disparition et un meurtre, deux adolescentes. Ça fait beaucoup dans cette petite ville. L'intrigue est très bien ficelée, tout en restant crédible, et vous fera regarder jusqu'au dernier épisode. Et vous me remercierez. Mare of Easttown est disponible sur OCS.
Ça a l'air super. Voilà. Je ne sais pas si ça vaut Max Boublil dans Sous le Soleil quand même.
Ah, wow. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Vraiment,
Parce que vous aussi, vous aviez fait toute une immersion
tout
à Saint-Tropez pendant deux semaines.
L'accent et tout.
Bossé l'accent.
J'étais chez Sénéquier, manger des glaces. Bien sûr. C'était pas facile de se mettre dans la.
Merci beaucoup, en tout cas, Louise. On vous retrouve à 10h40 pour votre bon plan en région du jour où il sera question de footing culturel. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le footing culturel? Et bien, restez avec nous pour le savoir.
Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi, Thomas Hill.
Le club de l'été continue jusqu'à 11h, toujours avec Max Boublil et sa guitare. Et dans ce club, on va continuer à s'intéresser à ce qui passe à la télé. Alors, à la télé, l'été. Bon, c'est vrai qu'on a généralement droit à beaucoup de rediffs, mais s'il y a une chose sur laquelle on est vraiment gâté l'été, particulièrement cette année, c'est le sport. Bon, l'euro, on a
plus trop envie
d'en
parler.
Oui, on va oublier, on va oublier.
Mais le Tour de France, ça, on veut bien. Et le visage du Tour de France, c'est bien sûr Laurent Luya qui est avec nous. Salut Laurent.
Salut Thomas, salut à tous les trois.
Bonjour. Wow,
il a une voix, frère, le gars vient de se lever il y a 4 secondes. Oh, ça arrive, les gars. Le gars, il y a le réveil. Oh putain, les enculés, il y a la radio.
Vous avez eu le temps de prendre
en fait,
un café
si
ah, le gars, pour est, ouais, le gars est en redesse d'alcool. Ça s'entend, je sens l'alcool.
Pour ne rien vous cacher, quoi, si vous voulez tout savoir.
Il a la voix qui tremble et tout, il est magnifique. Il est merveilleux, je l'adore.
Oui, Laurent.
Non, mais j'ai eu ma deuxième dose de vaccin samedi et j'avoue que. Ça m'a cassé complètement hier et un peu aujourd'hui. Mais voilà, mais sinon ça va.
C'est sa deuxième dose qui l'a cassé. Ouais. On s'est dit qu'on allait vous appeler ce matin parce que c'est votre jour de RTT.
Deuxième dose de jean, par hasard, non.
c'est votre jour de RTT, il paraît, aujourd'hui.
Oui, c'est ça, c'est le seul jour de repos de la semaine.
Pour le Tour de
donc,
France.
Donc ça fait du bien. Mais enfin bon, c'est surtout pour les coureurs que ça doit faire du bien, je pense.
Oui, oui,
ah ouais,
oui.
Ça a été dur ces derniers jours-là dans les Alpes, hein.
Ah non, mais l'étape d'hier, elle est invraisemblable. C'est, on se dit, ils font un sport de fou, de marteau, quoi.
Et alors,
parce que courir 4 heures dans ces conditions, c'est dingue. Hein.
C'est terrible. Hein. Alors,
il a même plus les arguments.
Il est au bout du rôle.
Beau, il est beau, je l'adore.
Et alors, cette année, Covid oblige, c'est un peu particulier, parce que vous êtes à distance, c'est ça, le Vélo Club, ça se tourne en studio?
Oui, on est à Paris comme l'année dernière. C'était un peu compliqué, encore une fois, d'être sur place parce que de toute façon, on n'aurait pas eu accès ni aux coureurs, ni aux directeurs sportifs. Donc, on aurait eu notre plateau sur place, mais ça n'aurait pas apporté grand-chose de plus, notamment pour le Vélo Club. Donc, on a décidé de rester à Paris. Et puis, comme il y a les JO dans la foulée, c'était quand même plus prudent pour toute l'équipe.
Et en plus, vous étiez crevé, donc vraiment...
Non, je vous rassure, je suis quand même en forme. Hein,
ah, non, ça va, on est rassurés.
Ouais.
Et on ne s'en rend pas toujours compte. Hein, mais racontez-nous un peu, Laurent, le Tour de France, c'est un barnum télévisuel énorme.
Ah bah oui, parce que c'est 300 personnes entre la production, l'éditorial, la technique et sur 6000 kilomètres quoi. Donc c'est vrai qu'il y a à la fois évidemment les émissions, les directs, mais il y a aussi toute l'infrastructure et le déplacement en fait d'une petite ville en fait pendant 3 semaines. Donc c'est vrai quand on est à Roland-Garros par exemple, on est sur place tous les jours, on va au même endroit. Là il faut bouger chaque jour. Donc c'est mais bon,
mais avec
il y a
une
un
audience aussi énorme à la clé avec un pic à presque 5,5 millions de téléspectateurs lors de la victoire de Julian
Mais plus Thomas.
Ah bon ?
Mais plus oui, mais hier, je peux vous le dire, hier donc en moyenne sur France 2, l'étape c'est 5,5 millions et l'arrivée est à plus de 7 millions.
Oh là
plus
là
de
là
7
là
millions.
Là.
Hier, vers 17h30, le Vélo Club est à 3,3 millions et fait une audience historique pour la première semaine, à plus de 2 millions. Donc, c'est vrai que c'est faramineux. Mais c'est un tour, pour l'instant, c'est un tour un peu de légende. C'est-à-dire qu'il y a eu 9 étapes et toutes les étapes ont été fantastiques. Il s'est passé quelque chose. Souvent, la première semaine, vous savez, il y a des étapes de plaine où je dis pas qu'on s'ennuie, mais il se passe pas grand-chose.
On se chauffe.
Là,
ouais.
Tous les jours, il s'est passé. Et puis il y a eu, Julien Lafilippe qui a gagné la première. Puis après, il y a eu Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Poulidor. Il y a eu énormément d'émotions. Puis il y a eu des chutes absolument terribles.
Il y a beaucoup de chutes cette année, Laurent, particulièrement. Et puis il y a cette histoire aussi, début du tour, cette femme qui accidentellement fait tomber les coureurs avec sa pancarte. Du coup, il y a une enquête pendant le tour. Comment vous le vivez, vous, toutes ces péripéties? Est-ce que ça vous fait faire un tour différent que les autres années?
Non, ça change rien. Mais si vous voulez, cette dame, je pense que c'était vraiment de l'insouciance. C'était pas malveillant, si vous voulez. Je crois qu'elle s'est vraiment pas rendue compte du danger. Et bon, c'est vrai que du coup, il y a eu une enquête. Elle a été recherchée. Elle a été elle a été interpellée. Elle sera jugée. Bon, je pense qu'elle risque pas grand chose. Mais il fallait quand même que les organisateurs montrent l'exemple et disent aux gens que c'est très dangereux. Je veux dire, c'est prendre une photo, s'avancer, essayer de gêner les coureurs, ça peut avoir des conséquences terribles en fait.
Oui, alors vous, mon pauvre, vous êtes fait avoir avec votre collègue Aléa du direct. Hein,
oui.
Vous êtes fait avoir par une vanne d'un tweetos qui annonçait qu'elle avait été interpellée à l'aéroport de Glasgow.
Oui.
Bon, il faisait une blague en fait sur Dupont de Ligonnès.
Oui, c'est ça.
C'est une référence à cette personne qu'on avait pris pour Dupont de Ligonnès et vous l'avez annoncé en direct alors.
Bah,
avec
en fait,
conditionnel quand même. Hein.
J'ai mis le conditionnel, j'ai dit on va se renseigner. Bon voilà.
Comment vous vivez sur l'instant après,
une
parce que
bourde.
Tout le monde vous tombe dessus. Oh, bah, c'est ça qui est terrible avec ça. Et c'est intéressant, je trouve, à souligner, c'est que direct ensuite, il y a plein de tweets agressifs, mais aussi des articles qui sortent sur le web en titrant l'énorme bourde de Laurent Luya. Alors que juste, ça fait plus de 20 ans que vous couvrez tous les événements sportifs sans aucune fausse note. Comment vous le vivez, ça? C'est quand même
mais
assez
ça,
violent.
Mais ça met en avant. Bah, ça met en avant, si vous voulez, tout le côté malfaisant de Twitter, qui peut être aussi, donc des réseaux sociaux, ça peut être aussi génial et utile et tout ce que vous voulez, mais il y a toute cette partie où vous avez des rageux haineux qui vont en profiter, qui sont dans leur canapé, qui font rien de leur vie et qui vont en profiter pour se défouler, et puis des sites qui reprennent ça pour faire du clic. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
ça vous est arrivé ce genre de bad buzz comme ça, Max Boublil?
Non, moi j'ai eu la chance de pas encore avoir. Je me mouille tellement dans rien que
ça protège.
Et vous regardez un peu le Tour de France? Vous suivez? C'est un rendez-vous
désolé,
que vous regardez à la télé?
Vraiment pas du tout. L'Euro, oui, mais le Tour de France, non. Mais je vois. Ouais, j'ai vu l'histoire de la fille avec la pancarte et tout.
Ouais, c'est ça. Ça fait la une de l'actualité. Ouais.
Mais vous savez que vous avez aussi un point commun avec Laurent Luya, Max Boublil, c'est que vous êtes tous les deux chanteurs. Écoutez.
Moi j'en ai marre des interdits. J'ai décidé de vivre ma vie. Je suis comme Churchill. Je fais pas de sport, j'agis tranquille. Mais pas de panique.
No sport, no stress.
Ah, c'est ma casserole, ça, en fait.
On l'adore, cette casserole. Hein.
C'est un
on
bon
aime
petit
beaucoup la région, Laurent.
Merci, Anissa. Ah, ça fait plaisir.
Et d'ailleurs.
Moi, c'était un petit délire, en fait, qu'on a fait avec des potes il y a une dizaine d'années.
Ouais.
Encore une erreur de fête de bourré.
C'est des choses qui arrivent, encore la deuxième dose. Et non, mais d'ailleurs, deuxième à l'époque, dose. Vous ne cachiez pas vos envies d'animation dans le divertissement pur aux côtés d'artistes, Laurent Luya. Est-ce qu'un jour, on pourrait vous retrouver en prime sur France Télé, dans un divertissement? C'est possible, ça?
Oui, alors j'ai eu la chance déjà pendant des années de faire l'émission Village Départ. Enfin,
oui,
c'était
ouais.
Avant le Vélo Club, donc c'était avant la course. Et c'était une émission de variété. On a reçu Vianney, on a reçu Stromae, on a reçu Michel Polnareff. À tous les jours, c'était exceptionnel avec le public. C'était en direct. Il y avait 2-3 000 personnes autour du plateau. C'était une fête. C'était vraiment la France. Le côté festif du Tour de France. Donc ça a été un vrai bonheur. J'ai eu la chance aussi de faire un documentaire sur Michel Sardou.
Ah oui. Donc
voilà, il y a 3 ans, je pense que il est possible que j'en refasse un sur une autre artiste. Donc voilà, c'est vrai que le divertissement, j'aime énormément ça. Moi, j'aime bien le direct, j'aime bien contact avec le public. Voilà.
Le direct, vous allez en faire beaucoup bientôt avec les JO de Tokyo qui arrivent à partir du 23 juillet. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous ce matin dans ce club de l'été.
Merci, Laurent.
Merci à vous. Et grâce à vous, j'ai retrouvé une bonne voix.
Mais oui, on voit ça.
C'est ça. C'est le départ Europe 1 le matin. Ça
oh,
fait toujours du bien.
Tu finis avec Laurent Luya. Moi, j'ai l'impression que c'était lui l'invité ce matin.
Non, on va vous retrouver dans un instant. Max Boublil, c'est votre club de l'été. On va écouter de la musique.
On l'a plus de l'an, là.
On est retourné sur le
mon
tour.
Débat.
On va parler des papapoules. Et vous êtes le plus cool des papapoules dans un instant du côté du bassin d'Arcachon. C'est juste après Clara Luciani sur Europe 1.
Le club de l'été. Anissa Haddadi, Thomas Hill.
Eh oui, c'est le club de l'été. Elles étaient bien, ces pubs. Hein. Elles étaient rythmées, sympas.
Ouais,
j'ai bien aimé.
Super,
j'ai bien aimé.
Ça permet de se renseigner sur ce qu'il faut acheter en ce moment.
Ouais.
Tout
et
ça.
Vous en avez fait pas mal d'ailleurs. Des pubs.
Quel métier. Tu vois, c'est là que je vois que c'est pas mon métier.
Mais pourquoi vous avez fait ça? C'était un bon moyen de vous faire connaître?
Attends,
ou c'était un bon
moment,
moyen de.
Au début,
de gagner de l'argent.
Au début, parce que déjà, ça fait travailler, puis ça fait gagner un tout petit peu d'argent. Pas énorme. Hein.
Ouais.
Pas énorme.
Mais vous en gardez des bons souvenirs quand même.
Ah ouais, moi j'adorais. J'étais le jeune de toutes les pubs dans les années fin 90. Début 2000.
Mais pendant 10 ans, vous gardez la même tête sur les pubs, hein, que ça soit pour le yaourt ou les chocolats.
Mais la personne ne vieillit pas.
Vous
vieillissez
pas.
Trouvez, vous êtes mignon.
C'est peut-être parce que je vieillis en même temps que vous.
Pense que c'est pour ça, on se rend pas compte. Mais en fait, tu regardes des photos d'il y a 10 ans, tu dis putain, j'ai pris un coup de poêle dans la gueule, mon frère.
Alors maintenant, Max, on va se plonger dans d'autres souvenirs. On oublie les pubs, on va parler de vos vacances. On va
c'est
partir
fini là avec Laurent Duel, là. C'est bon, on est d'accord.
On va pas au moins écorcher son nom, le pauvre. On l'embrasse, Laurent.
On va partir avec vous en
Laurent
vacances.
Ricard.
Alors d'abord, vous partiez où, vous, Max?
Petit, en vacances. J'allais dans la maison de mes grands-parents qui est à Arcachon.
C'est là où vous allez toujours.
Ouais, j'ai pas bougé.
Vous êtes l'ambassadeur de
du coin. Non, il y a Bernard Montiel aussi qui est dans le coin.
C'est vrai,
lui, il a sa langue de pute.
Non.
On l'embrasse.
Salut,
évidemment,
Bernard.
Il adore.
Bernard,
il adore qu'on fasse ses blagues sur lui, évidemment.
Qu'est-ce qui vous plaît
tant là-bas ?
Non,
il n'y a pas que moi. Maintenant, il y a plein de monde. T'as plein d'artistes qui sont là-bas.
C'est vrai.
Non, ce qui est bien, c'est que c'est voilà, moi j'ai deux petites filles qui sont toutes jeunes et tout, et c'est un endroit qui est calme, c'est un endroit où voilà, la mer est pas trop agitée, où il y a pas trop de voitures, donc c'est génial pour aller avec des enfants.
Et
j'ai vraiment des vacances de vieux.
C'est ça. Mais vous êtes comment en vacances?
Attends, j'allais en Espagne et tout, on faisait la teuf. Aujourd'hui, je fais des randonnées dans le sud-ouest. Tu vois, c'est...
Ouais. Et comme vous êtes hyper détendu déjà dans la vie, on dit.
Pas tant.
Ah non, pas tant que ça?
Non, je me stresse. Attends, parfois, je me dis, putain, là, j'ai mon spectacle, on va le capter et tout. Je suis un peu stress là en ce moment.
D'accord.
Ça se voit pas, hein, je cache
vous
bien.
Masquez,
je...
ouais, vous masquez,
je masque.
Et en
vacances, comme un grand joueur de poker.
En vacances, vous êtes total détente
à Patrick
ou...
Bruel. Quoi, j'ai envie de faire chier ce matin. Tu sais, quand on me lève tôt comme ça, j'ai envie de faire chier. Tu sais, comment. C'est le cours de maths de 8h, t'as envie de pourrir.
Non, mais je poserai une question à l'autre jour, c'est pas grave.
Non, pardon, je vous écoute. Laurent Thuillard.
Qu'est-ce que. Laurent Luyard.
Luyard.
Salut, qu'on embrasse, évidemment.
On embrasse.
Laurent, qu'est-ce que vous faites en vacances? Est-ce que vous surfez, par exemple, dans ce coin-là?
Non, parce qu'il y a pas de
la planche. Sur
non,
l'océan.
Le bassin. Ouais, je peux aller un peu plus loin.
Ouais.
J'ai essayé une fois, c'est très compliqué le surf. C'est génial, ça fait un corps magnifique.
Et oui.
Donc on voit que je ne suis pas. Je sors pas du surf.
Donc vous êtes du genre allongé toute la journée au soleil?
Non, j'aime bien. Qu'est-ce que je fais? Je m'occupe des enfants.
Du bateau un peu sur le bassin?
Ouais, j'en fais un peu. Je fais des châteaux de sable avec les petites. Qu'est-ce que je fais? Je bois des bières à 17h.
Ah d'accord, voilà. L'apéro.
Vous allez sur l'île aux oiseaux?
Ouais, je fais un peu de nage, mais il n'y a pas grand-chose. Ouais, je me fais un peu chier, hein, pour vous dire la vérité.
Il y a des potes,
hein,
ou pas?
Il y a des copains, évidemment. Ah. On va boire des bières avec les copains, avec les enfants.
Il y a un truc sur lequel vous êtes insupportable, c'est de choisir vos plats au restaurant. C'est un de vos potes qui nous a dit ça.
Ah ouais, c'est un pote qui vous a dit ça. Ouais, c'est vrai que j'aime bien changer de. Ouais, je peux être très chiant. Ouais.
On a même un pote qui nous a dit que ce week-end vous étiez dans le sud,
ouais,
que vous avez commandé des couteaux et que quand c'est arrivé, vous n'avez pas pu les manger.
Ah non, mais on a commandé. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire que j'étais avec des. C'est pas hyper intéressant comme anecdote, mais on commande des couteaux dans un resto, ça arrive. C'est des couteaux, je sais pas, à Marseille. Je faisais des dates à Marseille. Le brûle dans du foin, c'est du foin qui arrive. T'avais les couteaux qui étaient encore crus, qui brûlaient dans du foin. Le plat était hyper cher. On s'est dit,
bon, mais
on a commencé à les bouffer. Je te jure, les couteaux jusqu'à la date le soir, je les avais qui remontaient.
Oh, c'est délicieux.
Voilà, il n'y a pas de super chute à cette anecdote.
Non, mais elle était bien. On a apprécié. Allez, Max, on va vous placer maintenant devant les vrais grands choix de l'été.
Ouais.
Ce sera dur, mais il va falloir choisir.
Je vous écoute.
Californication ou Sous le soleil?
Californication 100 fois.
Cabane chanquée ou cabane dans les arbres?
Cabane dans les arbres, pour aller voir les oiseaux.
Au soleil ou à l'ombre, l'été?
À l'ombre.
Transat ou serviette?
Serviette, naturelle.
Ah ouais.
Un peu wild. Nu, évidemment.
Bien sûr.
Toujours.
Sur un rocher.
Booba ou Angèle? Ça, c'est pour vos deux filles. Hein.
Ah, c'est dur de choisir.
Votre fille aînée ou votre deuxième fille?
Booba et Angèle qui feraient un duo,
ah,
un titre ensemble.
Voilà. T-shirt moulant ou slip moulant?
T-shirt moulant ou slip moulant, les deux.
Tout
les
moulant.
Deux, tout moulant, tout
ouais.
Moulant,
tout
c'est bien.
Tout en moule.
Ouais, tout en moule.
Selfie, comme votre film en 2019, ou photo de famille, l'été?
L'été, photo de famille, très sympa, bien sûr.
Tong, claquette ou Birkenstock?
Birkenstock, classe.
Bien sûr.
Birkenstock, Arcachon. Très élégant, classe. Birkenstock.
La classe allemande.
La classe allemande, ouais, toujours été un peu élégant, les Allemands.
Bien sûr.
Alors, vous préférez mettre de la crème ou qu'on vous en mette?
Écoutez, moi je mets pas beaucoup de crème parce que je suis une peau qui est assez brune, je prends bien le soleil, comme Enrico
Macias. Il faut quand même pas protéger un peu.
Oui, bien sûr.
En dessert.
Peu d'huile d'olive.
En dessert, vous prenez des dunes blanches ou des cannelés?
Ah ouais, vous êtes genre sur un truc sud-ouest, quoi.
Ah bah on parle de vos
vacances
à Arcachon.
Ouais. Je vais pas prendre de dessert parce que je fais attention à ma ligne, tu vois, entre deux cours de surf.
Alors c'est bien dommage parce qu'on vous avait fait une petite surprise.
Oh, vous m'aviez ramené des cannelés. Oh,
non, des dunes blanches.
Mais arrête.
D'Arcachon. Ouais.
Oh, vous êtes trop sympa.
Thomas,
oh,
faites passer.
C'est une petite merveille. On explique
ce que c'est. Celle-là. Frère, elles sont.
J'ai un peu
honte. Elles sont arrivées, elles sont malades.
Ouais, le carton a eu un petit
le carton.
C'est de la bouille, mon frère. C'est trop mignon.
Le carton,
ça me
le
touche
carton a
énormément.
Souffert, mais les dunes blanches.
Ça donne tellement pas envie. Mais c'est vraiment l'intention qui compte.
Alors,
et ça,
faut
c'est...
dire qu'Anissa a ça, pris le métro ce
donner...
matin.
Ah ouais,
métro,
vous êtes trop mignonne. Je vais les garder, puis je vais les donner à Laurent Thuillard. Ça lui fera.
Bon, on explique rapidement.
Non, mais c'est trop mignon.
Les dunes blanches, c'est une spécialité d'Arcachon de Bordeaux qui viennent d'arriver sur Paris. Ce sont des petits choux fourrée à
c'est
la crème chantilly.
Trop mignon.
Et on trouve ça chez vous sur le bassin d'Arcachon.
Non, mais c'est tellement mignon d'avoir pensé à ça.
Vous et êtes venu en métro.
Mais ouais, ce matin,
vous
très tôt.
Vous êtes trop sympa, vous êtes dû vous lever et tout ça pour finir à la poubelle quand même. C'est quand même. Malo, la vie est injuste. Ouais. Hein.
La vie est dure.
Et elle vous a ramené également des couteaux.
Oui, ça c'est hyper bien.
Tout un plateau de fruits de mer.
Bien sûr,
t'as vu, il n'y avait pas de chute à cette anecdote de couteau.
Mais elle était bien, elle était bien.
La chute, c'était.
On la mettra de côté, celle-là. Allez,
bonjour, ça va. Il y a des gens qui rentrent.
Oui, il y a des personnes qui viennent parce que dans un
c'est
instant,
l'info.
C'est le rappel
c'est
des titres de 10h. Et puis
alors,
on accueillera Clément Lanoux
dans l'actualité.
Pour sa chronique
j'ai
L'été vu par les enfants.
Je t'en prie.
A tout de suite, Europe 1.
Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Anissa Haddadi, Thomas Hill.
Mais quel bonheur de passer tout l'été avec vous. Bienvenue à ceux qui rejoignent ce club de l'été qui continue jusqu'à 11h avec, soulignons-le, un invité de tout premier choix, Max Boublil, qui remonte sur scène ces jours-ci pour encore quelques dates dans cette deuxième heure. On va partir se balader un petit peu partout en France avec Louise Bernard, Nicolas Caro, le meilleur lecteur de la bande, viendra lui nous donner des idées de lecture très très courtes parce qu'il paraît que c'est pas trop trop votre truc les bouquins, Max, on va en parler.
Sûr, je veux bien placer pour un imbécile, mais alors là, non.
On va en parler,
beaucoup,
on va en parler.
Énormément.
On ira ensuite faire un petit tour au Festival d'Avignon avec Angèle Châtelier.
L'orthographe non plus, Max Boublil, c'est pas votre truc.
Et on terminera par un petit coup de fil au chef du restaurant Nudisme Interdit, parce qu'on m'a dit que quand on mettait le mot nudisme dans un sommaire, les gens avaient davantage envie de rester. C'est le club de l'été jusqu'à 11h.
Le club de l'été, 2 heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Alors Max, on en a parlé depuis 9h, vous avez 2 petites filles, il paraît que vous êtes un papa poule.
Tout à fait.
Est-ce que vous aimez que vos enfants vous quittent parfois? Est-ce que vous aimez qu'ils partent chez les grands-parents par exemple?
Ah oui, c'est vrai que c'est... En fait, les enfants, c'est vrai que quand tu les as pas, ils te manquent vraiment. Et quand tu les as, au bout d'un moment...
On a envie
quand
de les lâcher un peu.
T'es content de les lâcher, ouais.
Alors
toujours...
nous, on a un spécialiste des enfants sur Europe 1, c'est Clément Lanoux. Il les aime tellement qu'il a décidé de passer l'été avec eux et tout l'été. Salut Clément.
Salut Anissa, bonjour.
Salut Clément.
Thomas, bonjour Max.
Bonjour.
J'espère que ça va Anissa, parce que je suis arrivé ce matin, je l'ai vu tomber avec des dunes blanches. Je sais pas pour qui c'était. J'espère en tout cas qu'elles étaient
des
bonnes.
Des dunes blanches périmées qui faisaient...
Des dunes blanches qu'on voyageait depuis Arcachon. Et apparemment qu'on
chute.
Fait beaucoup de changements de
je les ai vus vraiment, elles se sont écrasées.
C'est vrai.
Et j'ai dit mais vous allez pas offrir ça. Elle m'a dit on a plus le choix, c'est la première, il arrive, il comprendra.
Merci Clément.
En tout cas, de rien. En tout cas moi je serai là tous les 2 jours effectivement pour m'occuper non pas du club Europe 1 mais du mini club. Je m'occupe des enfants, je les questionne et j'ai une question d'ailleurs autour de la table. Je sais que vous êtes tous parents. Où vont vos enfants cet été? Est-ce que vous faites le fameux, ce que fait tout le monde parce qu'ils sont vaccinés maintenant, on peut y aller, c'est moins cher que la colo. Est-ce qu'ils vont partir chez les grands-parents?
Ah bah oui.
Ah oui, il y a un mois de grands-parents.
Moi aussi, il y a un mois de grands-parents.
C'est ce qu'il y a de moins cher.
Hein. C'est ce qu'il y a de moins cher. Donc ça arrange les parents, mais est-ce que ça arrange les enfants? Je leur ai demandé tout simplement ce qui était cool quand on partait en vacances chez les grands-parents.
Parfois, les grands-parents, ils sont plus gentils que nos parents et ils nous achètent ce qu'on veut.
Des fois, on peut faire des trucs qu'on n'a pas le droit de faire chez nous. Du coup, ça peut être bien.
Moi, j'aime bien y aller parce qu'il y a du terrain et on peut se cacher.
Parfois, ils nous cuisinent ce qu'on veut manger.
Elle me fait des frites fait maison et elles sont trop bonnes.
Chez ma mamie, c'est régime patates et crêpes.
Ils m'aiment bien, c'est déjà le principal.
Ils m'aiment bien, c'est déjà le principal. C'est pas mal. Mon préféré, ça a quand même été le fils de Stéphane Plaza qui s'est caché à l'intérieur, si on peut réécouter.
Moi j'aime bien y aller parce qu'il y a du terrain.
Il y a du terrain.
Il y a du terrain. Et puis j'ai trouvé encore mieux après. Je leur ai dit c'est quoi le meilleur argument pourquoi toi t'aimes tant aller chez tes grands-parents?
Moi j'adore aller chez ma mamie parce qu'il y a du saucisson.
Voilà, comment attirer les enfants quand on est grands-parents? Il y a du saucisson. Alors quand on écoute cette chronique, on se dit oh, c'est mignon de les envoyer, ça fait des beaux souvenirs comme vous, Max, à Arcachon. On s'en met plein la tête. Mais il y a aussi des aspects négatifs. J'ai gratté un peu. J'ai demandé aux enfants. En vrai, vos parents sont pas là. Qu'est-ce qui est horrible chez vos grands-parents?
Il y a pas trop de Wi-Fi parce qu'ils sont pas trop écrans. Ah ouais. Ils ont plein de meubles tout vieux là et c'est moche.
Il y a pas Netflix, il y a pas YouTube, enfin il y a pas beaucoup de trucs à regarder. Il y a même pas les replays du coup.
Il y a pas de Lego pour s'amuser.
Ça sent l'odeur des vieux.
Oh. Bah aussi des fois quand c'est des, bah, ils portent des grands pantalons, du coup bah, c'est pas très beau.
Bah on mange très tôt. Enfin genre l'après-midi on mange vers midi. 12h30. Et le soir, on mange vers 19h.
Même les poules, elles mangent pas à 19h.
Voilà, à peu près ce qui vous attend, les enfants. Courage à tous les enfants qui nous écoutent, qui sont en train de sécher l'école. Il reste 2 jours.
C'est mignon, ça sent le vieux, c'est dur.
Oui, mais après, c'est que des bons souvenirs. Vous en parliez tout à l'heure. Finalement, on souffre un peu, mais ce sera les plus beaux souvenirs dans quelques années, à une seule condition. qui est du terrain et du saucisson.
Et puis heureusement qu'ils sont là, les grands-parents, pour s'occuper de nos enfants pendant l'été. Je sais pas
quoi que maintenant, il y a de plus en plus de grands-parents qui travaillent, donc il y a de plus en plus de grands-parents peu disponibles.
C'est vrai.
Et ça, c'est problématique. Si on peut monter un club de parents au bout du rouleau.
Ou qui préfèrent partir seuls, en se disant on est des jeunes du troisième âge et on y va. Je vous laisse. C'est la première fois que je rencontre un sénateur, donc
merci.
Salut Clément.
À mercredi pour une nouvelle chronique. Et comme promis, dans un instant, on va partir plus au sud avec Angèle Châtelier en direct du Festival d'Avignon. À tout de suite sur Europe.
Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi, Thomas Hill.
De retour dans le club de l'été avec Max Boublil en spectacle, notamment en Avignon, c'est comme ça qu'on dit, du 11 au 16 juillet. Et justement, on part tout de suite en direction du Festival d'Avignon où se trouve Angèle Châtelier. Bonjour Angèle.
Et non, c'est encore
bonjour Thomas, bonjour Anissa.
Salut, on est si beau.
Ça va bien Angèle, vous allez bien? Vous êtes où exactement?
Je suis en terrasse d'un café à Avignon, je vous avoue qu'il fait à peu près 28 degrés. Aïe. Donc par chez vous, je ne suis pas sûre que ça soit la même chose, mais en tout cas, je suis bien. Pour cette 75e édition du Festival d'Avignon donc qui commence aujourd'hui. Tenez, écoutez la joie immense d'Olivier Pi, le directeur du festival que j'ai pu rencontrer hier.
On a été privé de festival l'année dernière, donc cette joie est à la mesure de la tristesse qu'on a connue l'année dernière. Alors là, on est dans les rues d'Avignon, dans un état d'euphorie. On retrouve notre festival, c'est merveilleux.
Alors Angèle, vous étiez déjà hier sur place. C'était comment les derniers préparatifs de ce dimanche ?
J'ai eu la chance de pouvoir aller au milieu de la cour d'honneur du Palais des Papes qui accueillera ce soir une pièce de Tchekhov appelée La Cerisée. Les représentations sont très attendues. Il y en aura 11. La première va ouvrir le bal ce soir à 22h. Une pièce dans laquelle l'actrice Isabelle Huppert, qui tient le rôle principal, est disons perturbée par l'avenir. Et ça, Thiago Rodriguez, le metteur en scène, admet bien volontiers que c'est plutôt d'actualité.
Elle parle surtout de l'incertitude d'avenir et nous, les humains de 2021, on comprend bien la question de l'incertitude de l'avenir. Ça se passe toujours avec le théâtre. Si on décide de monter, Antigone de Sophocle en 2018, mais on finit par la présenter en 2021, on aurait certainement le même ressenti. Et ça, pour moi, c'est la raison pour laquelle on revient toujours aux grandes histoires, aux mythes. C'est le fait qu'elle encapsule des phrases, des pensées, des événements qui vont nous servir à n'importe quelle époque.
En tout, 46 spectacles vont se tenir au Festival d'Avignon ces prochaines semaines, ce qui fait vivre la ville, son patrimoine aussi, et ses terrasses qui étaient hier absolument toutes bondées quand le soleil était enfin revenu. Alors il faut vous imaginer qu'il y a quelques contraintes quand même, le masque obligatoire dans certaines rues quand il y a du monde, un passe sanitaire pour les représentations au Palais des Papes, mais tous les artistes que j'ai rencontrés m'ont dit une chose: quel bonheur d'être de retour.
Ah oui, évidemment, et c'est la même chose pour les comédiens du Festival Off, j'imagine.
Oui, vous savez, le Festival Off, c'est celui dans lequel on retrouve surtout les pièces privées, dans les théâtres privés de la ville. Il y a cette année plus de 1000 spectacles. Moi, je me suis rendue au Théâtre des Brunes, où toute la journée, les filages se sont enchaînés, comme celui du spectacle musical pour enfants, Nassé et la pierre d'arc-en-ciel. Écoutez, j'ai pris un petit peu de son. À partir de 4 ans. Mais c'est bien aussi pour les adultes, moi je me suis amusée quand même. Alors j'ai aussi pu rencontrer quelques comédiens de différentes troupes du Festival Off, comme Alix Andréani pour une pièce appelée Trois Ruptures et Tigrane Mekhitaryan pour une autre nommée Deux Frères.
On a hyper bien travaillé, on a vraiment fait ça de manière très intensive et très sérieusement pour derrière qu'on puisse vraiment s'éclater sur scène et emmener les spectateurs avec nous dans cette formidable aventure et faire rire un peu les gens. Je pense que tout le monde a besoin de décompresser un petit peu et de vraiment rigoler tout en ayant un fond quand même qui veut pas rien dire, c'est pas mon cul sur la commode non plus, c'est vraiment dans la joie.
Là on a l'impression que ça ressuscite, que ça recommence et que c'est une nouvelle ère et que c'est tout neuf, on a très faim, très envie. D'ailleurs, c'est mon 16e Avignon et c'est la première fois qu'on a autant de patates pour commencer le festival.
En tout cas, Angèle, on sent l'enthousiasme de tous ceux que vous avez croisés là.
Oui, et ça ne risque pas de s'arrêter. Le Festival d'Avignon se déroule jusqu'au 25 juillet, le Off, lui, jusqu'au 31.
Et Max Boublil sera à Avignon du 11 à partir de dimanche jusqu'au 16 juillet. Max, c'est un festival que vous connaissez bien, Festival d'Avignon.
C'est très très rigolo d'aller à Avignon. Tu vas voir plein de spectacles. Il y a des grosses fêtes le soir avec les comédiens, machin, tout ça. C'est très drôle de voir. C'est une concentration énorme. Moi, j'y vais vraiment pour c'est juste avant les dernières parisiennes, donc c'est mes dernières de, et je suis très content d'y aller. Ouais, c'est cool que ça réouvre.
Et ça veut dire que là vous êtes en train de répéter, de préparer?
Ouais. Ouais, je suis en train de répéter. J'étais à Marseille là pour faire des dates aussi, un peu de rodage. Là je continue, puis après je vais à Avignon et je finis à Paris. Ouais, je suis très content. Ça faisait un an et demi que j'étais pas monté sur scène et ça m'avait manqué. Ouais.
Il était temps qu'on revienne à la scène et au
mois,
plaisir.
On changeait de métier. Moi j'ai c'est comme je commençais à envisager de devenir boulanger.
Peut-être quelque chose à...
Il y a le t-shirt, les gars.
Le t-shirt blanc, bien
t-shirt
sûr.
T-shirt blanc de boulanger.
C'est à creuser. On remercie en tout cas beaucoup Angèle Châtelier qui était avec nous.
À bientôt.
En direct du Festival d'Avignon. On va vous retrouver très vite, Angèle.
Et on va continuer chaque jour de se balader partout en France. Comme ça, c'est le club de l'été. Dans un instant, on va s'offrir un petit cours de diction pour la bonne cause, Max. Et je sais que vous le faites en off pour préparer le spectacle. Ça devrait vous plaire. Et en plus, c'est solidaire. Mais avant cela, on écoute un extrait du dernier album de Francis Cabrel. C'est tout nouveau, c'est tout chaud, ça s'appelle Te ressembler, c'est sur Europe 1.
Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi, Thomas Hill.
Le club de l'été jusqu'à 11h. Le club de l'été qui va mettre en avant des belles initiatives dans toute la France, écologiques, solidaires, engagées. On va faire un petit coup de projecteur sur toutes ces belles actions.
Oui, et aujourd'hui, la belle initiative, en plus d'être solidaire, elle va nous faire rire et elle va peut-être sauver vos longs trajets en voiture cet été. Max, est-ce que vous savez, Max Boublil, vous êtes notre invité, ce qu'est un virelangue ?
Pas du tout.
Alors un virelangue, c'est une petite phrase que nous connaissons depuis l'enfance et qui sont souvent, pour vous comédiens, des exercices de diction avant de monter sur scène. Alors ces virelangues, ils ont été réunis dans un livre, très drôle, un petit livre signé Anaëlle Ocasio. Elle est correctrice de métier et pendant le confinement, elle a publié son tout premier livre. Alors attention, ce livre est original, ce n'est pas un roman ou une nouvelle que vous allez lire sur la plage, mais c'est un livre qui va nous faire du bien. Anaëlle, vous avez décidé de réunir 230 virelangues dans ce livre.
Bonjour Anaëlle Ocasio.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Alors les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Ou encore, celle-là elle est particulièrement dure. Je suis passé chez ce cher Serge. C'est ce qu'on appelle donc des... C'est ce qu'on appelle des virelangues, c'est
oui,
ça
oui, ah, c'est les petits pots de Suisse, Henri Reseratu. C'est ça.
Alors, on vous en réserve quelques-uns dans un instant. Vous en avez compilé 230. Où est-ce que vous les avez trouvés, Anaëlle?
Eh bien, écoutez, sur Internet, sur différents sites. Il y en a énormément.
D'accord. Et d'où vous est venue cette idée?
Alors, l'idée m'est venue parce que, comme tout le monde, lors du confinement, eh bien, écoutez, j'en avais un peu ras-le-bol. Ras-le-bol de la situation. Mmh. J'avais envie de rire, de choses légères. Et comme je venais de changer d'opérateur, comme vous l'avez dit tout à l'heure,
oui,
une
fauche.
Et l'idée m'est venue, oui. Ça m'a fait énormément rire de me rappeler de ce célèbre slogan.
Donc Max Boublil, il a
raison. Oui, bien sûr,
c'est vraiment en écoutant
ça,
une pub, voilà, on va pas la faire 10 fois non plus. ça leur fait trop plaisir. Mais ouais. C'est en écoutant cette pub que vous avez eu l'envie de créer ce livre et d'en réunir énormément. Max, on va vous tester un petit peu.
On va tester un comédien. Normalement, il est pro
dans un livre. C'est une super idée.
Avec les enfants, c'est rigolo.
Je lis le premier. Ouais. Ta 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 tonton et tonton ta 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 ta. Mais le ta ta. Ouais, ok, ta ta. 606 Suisse, 606 saucisses, dont. J'ai eu. Ok. Dont 6 en sauce et 6 sans sauce.
Oh là.
Voilà.
Fort.
C'est bon, j'ai bon, madame?
Ah, bravo, hein.
Ah, il est pas
vous validez, envie. Vous validez.
Ah
oui, bravo.
Ce chasseur si cher se sèche ce soir à son séchoir, mais son cher chien sage se sèche et chasse seul.
Ah, dur.
C'est quand même des histoires très tordues, hein, madame. Hein.
Oui, histoire ni queue ni
tête. Ah non. C'est super. Là, vous avez pris des assez longs.
Oui.
Après, il y en a des un peu plus courts.
Et puis, il y en a des étrangères. Vous en avez fait en anglais aussi dans le livre.
En espagnol,
oui. Oui, en anglais, en espagnol, parce que je pense que c'est quand même abordable pour tout le monde. Hein. On a tous été au collège, au lycée, on a appris. Je vous ai évité tous les casse-bouche parce que ça existe dans tous les pays. Hein.
Ouais.
Donc, je vous ai évité les plus difficiles.
Les Russes, par
exemple.
Par contre,
j'en ai un. J'en ai un pour vous, Max.
Ah. Merci.
Max, vraiment, il est super. Parce que c'est un casse-bouche tchèque.
Oula, oula.
Il a la particularité de n'avoir aucune voyelle.
Parfait.
Et on l'utilise, non. Il paraît que les Tchèques l'utilisent pour juger si vous êtes ivre ou non.
D'accord.
Ah, d'accord.
Parce c'est drôle. Que je pense que même sobre, c'est pas facile à dire.
Je vais vous le faire écouter.
Vous
allez-y.
Vous le faire écouter. Alors. D'accord.
Alors là, on dirait juste qu'il n'y a pas de réseau, justement. C'est ça,
qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes sous un tunnel?
Non, on n'a pas entendu, malheureusement.
C'était du tchèque. Ouais. Un casse-bouche.
Mais en plus, le réseau n'était pas... Ouais. Okay.
Alors,
pas entendu, mais j'aimerais bien le faire. Bah, quand
vous
on l'aura sous les yeux.
Si, on l'a bien entendu.
Si, on l'a bien entendu. On avait la sensation qu'il n'y avait plus de réseau, mais on l'a bien entendu. Anaï, il faut savoir que ce n'est pas juste un livre que vous avez fait comme ça pendant le confinement pour vous amuser. Vous avez décidé de reverser une partie des bénéfices de ce livre qui ne coûte pas cher, je vous le rappelle, et qui en plus est super drôle, familial et qui pourrait vous faire passer un bon été. Les bénéfices seront reversés à des associations en soutien aux étudiants toulousains.
Oui. Oui, parce que pendant le confinement, vous, comme tout le monde, on a tous vu des reportages sur les étudiants qui galèrent, dont la précarité a été accentuée par la crise du Covid. Ouais. Et je ne savais pas trop comment faire pour apporter ma petite pierre. Et je me suis dit pourquoi pas allier l'humour et au solidaire. Et c'est vrai que j'ai trouvé une association avec qui j'ai créé un partenariat et pour leur reverser une partie des bénéfices des ventes. Et,
bah c'est formidable.
Et c'est vrai que j'ai voulu illustrer justement cette action par le casse-bouche que j'ai créé sur la couverture du livre. Et donc, j'aimerais que Max essaie de le prononcer.
Alors, dites-nous.
Alors, juger un jeune en jeans sans job.
Juger un jeune en jeans sans job.
Ça fait juste jaser Gisèle.
Voilà. C'est pas mal.
Merci,
merci
et bravo pour cette très très belle initiative. On vous en présentera d'autres dans les jours à venir sur Europe 1. En tout cas, ça s'appelle Casse-bouche. Si vous souhaitez, vous le procurez.
Dans un instant,
merci beaucoup.
Notre deuxième indispensable, Nicolas Caro, va nous parler, lui, de littérature de poche au sens littéral, puisqu'il s'agit d'histoires courtes, très courtes. Ça pourra vous donner des envies, pourquoi pas, de lecture cet été.
Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi, Thomas Hill.
Le club de l'été avec l'excellent Max Boublil continue. Max, jusque-là très très à l'aise puisqu'on a parlé spectacle, musique, scène, festival d'Avignon. Mm-hmm. Tout ça, il maîtrise. Mais là, on arrive sur le sujet qui l'a séché, la littérature.
C'est pas vrai.
Grand lecteur.
Ça me fait passer pour un grand... Bah, bien sûr, moi je lis beaucoup.
Ah bon?
Je trouve que depuis le confinement, on va vachement dans les librairies et tout.
Ah non, mais moi j'avais sérieusement lu justement que vous ne lisiez pas du tout.
Bah non,
pas du
c'est
tout
affreux. C'est chiant de ne pas lire. Enfin, c'est dommage, c'est passé à côté d'un truc énorme, non, de la vie.
Bah, c'est passé
à côté du cinéma, par exemple, quelqu'un qui verra pas de film.
Et de Nicolas Caro. Salut Nicolas.
Salut Nicolas.
Ce matin, alors bon, même si vous n'êtes pas un immense lecteur, vous avez décidé de nous parler d'histoires courtes, hein, notamment de l'histoire la plus courte du monde, c'est ça?
Oui, parce que la taille, ça compte en littérature. C'est ni mieux ni moins bien, mais ça compte. L'avantage des livres qui font plusieurs milliers de pages, c'est que vous restez longtemps avec, vous connaissez intimement les personnages à la fin. C'est le cas pour La Recherche du Temps Perdu, bien sûr, cet tome quand même.
Au bout, ouais.
Ou Les Misérables, ou Les Trois Mousquetaires, parce que si vous ajouter la suite il y a 20 ans après, puis ensuite il y a la suite de la suite quand les mousquetaires sont vieux, le vicomte de Bragelonne, ça fait en tout dans les 5000 6000 pages, ça dépend des éditions, et à la fin du coup les mousquetaires ça sont vraiment devenus vos amis.
Donc ça c'est pour le format long, mais alors les histoires courtes alors?
Alors il y a les nouvelles, on a eu de très bons auteurs de nouvelles en France, on pense à Maupassant, mais on n'en a plus, ou presque. C'est toujours pareil, les éditeurs pensent que ça ne se vend pas, donc il y en a peu, donc moins d'auteurs s'y mettent, donc ça ne se vend pas, donc les éditeurs, etc. Mais aux États-Unis c'est un genre très noble, l'un des meilleurs dans le domaine c'est Raymond Carver, c'est le grand maître de la nouvelle, il faut lire sa nouvelle intitulée, je ne vous en donne qu'une comme ça, mais il en a fait des centaines, Une petite douceur.
Ah oui,
c'est
ça,
complètement
c'est
dingue,
c'est une petite
je sais que Thomas avait...
Ouais. C'est une petite claque, en fait.
Hein. Ah, une grosse claque. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que si on pleure pas à la fin, on a un cœur de pierre. Je vous raconte juste le début. C'est l'histoire d'une maman qui commande un gâteau pour son fils Scotty. Avant de partir à l'école, Scotty va avoir 8 ans. Donc c'est chouette. Elle appelle le pâtissier du centre commercial d'à côté. Elle lui dit « Ce serait bien si vous pouviez mettre Scotty sur le gâteau. » Il lui dit « Ok. » Mais ça fait plusieurs fois ces dernières semaines qu'on me décommande au dernier moment et moi je me retrouve avec un gâteau avec le prénom d'un gamin dessus, je ne sais pas quoi en faire. Mais oui, bien sûr, bah, de toute façon on va vous le prendre, bien sûr, c'est pour demain midi, il n'y a aucun problème. Et elle part à l'école avec Scotty et Scotty se fait renverser par un bus et hôpital, tout ça c'est vraiment très 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 grave. Quoi. Il est dans le coma et tout ça, donc le père et la mère sont évidemment au chevet de leur gamin. Et puis au bout de quelques heures quand même, le mari dit à la maman bah, « retourne à la maison te reposer, on va se relayer ». Donc elle retourne à la maison et puis elle voit que le téléphone sonne, elle entend le téléphone sonner, donc elle décroche et c'est le pâtissier furieux parce qu'elle devait venir chercher le gâteau le soir. Elle n'est pas venue. Elle lui dit « Excusez-nous, mais elle n'a même pas le temps de se justifier que le type explose au téléphone, etc. » Il raccroche. Hop. Il rappelle 2 minutes plus tard. Et il harcèle comme ça. Et à chaque fois qu'il se relaye, il y a le coup de téléphone du pâtissier.
Scotty,
furieux,
vous vous souvenez de Scotty?
Ouais. Et il ne veut pas entendre les justifications de rien, de rien. Je ne vous raconte pas la fin.
Oh ben si.
Non, je peux pas.
Il faut le lire. Mais
c'est merveilleux. Ouais. C'est-à-dire que c'est je vais rien dire.
Tous
que...
les chroniqueurs qui sont passés avant toi.
T'as pas accroché.
Non, rien. Tu vois, un coup de vent, une brise. Mais là, c'est intéressant, tu vois.
Et on se pose.
Ouais.
Merci, non, je suis flatté.
C'est vrai que c'est complètement dingue. Raymond Carver, on le trouve notamment dans Les Vitamines du Bonheur. Hein,
le recueil, Les Vitamines du Bonheur, ça fait une trentaine de pages, une petite douceur. La nouvelle en question.
Il y a un autre maître du genre, c'est Stephen King.
Stephen King, bien sûr.
J'ai acheté le dernier recueil, Si ça saigne.
Si ça saigne.
Ouais. Alors, c'est son dernier de nouvelles.
Oui, mais c'est 4 grosses nouvelles quand même.
C'est des grosses nouvelles,
120,
c'est presque des petits. Ouais, voilà, c'est presque des petits romans.
Mais il a fait un recueil qui s'appelle Différentes saisons. Ouais, il y a aussi, c'est pareil, hein, ça fait une centaine de pages. Mmh. Et il y a notamment dans ce recueil, qui est mon préféré, La rédemption de Shawshank, qui est devenu Les Évadés au cinéma.
Mon autre, j'ai lu tout Stephen King, tu peux même pas, j'ai incollable.
Vous êtes hyper pop culture, Les Évadés, normalement c'est dans votre panthéon.
C'est, déjà le film est génial, j'ai bien sûr lu la nouvelle et tout, Les Évadés de Shawshank et tout, et j'adore. Avec
Morgan Freeman et Tim Robbins.
Exactement.
Et c'est du génie pur, c'est l'histoire, bon, bah, vous connaissez sans doute, hein, parce que c'est le film préféré des Américains depuis 20 ans.
Ah ouais?
C'est-à-dire qu'il a chaque fois dans le top 3,
c'est drôle.
Il y a Les Évadés.
Il n'y a pas La Ligne Verte aussi de Stephen King sur le même thème.
Si, il y a La Ligne Verte aussi, mais La Ligne Verte, c'est un gros, gros roman. Il fait 600 ou 700 pages.
Voilà. Total Recall, c'est lui aussi.
Total Recall, c'est Philip K. Dick.
Ouais. C'est pas Stephen King
c'est Philip K. Dick. Avec Schwarzenegger, ça a été adapté, puis Colin Farrell d'ailleurs. Nouvelle de Philip K. Dick, il y a Souvenir à vendre aussi, qui est en fait Total Recall.
D'accord.
Mais
d'accord.
Le titre a changé.
Alors, est-ce qu'il y a une norme pour la taille des nouvelles? Est-ce que c'est quoi? C'est 10, 20, 50 pages?
On estime qu'un roman, c'est plus de 120 pages. Une nouvelle, c'est plus de 10 pages, moins de 50 en général. Certains font un peu plus. On parle alors de novella, ce qui se transforme parfois en roman. Par exemple, Steinbeck, Des souris et des hommes, on pleure aussi à la fin. En français, c'est 90, 95 pages. On appelle ça un roman, mais en fait, c'est plus une grosse nouvelle. Peu importe.
Et alors, ces nouvelles qui font moins de 10 pages, alors il y en a?
Et ce sont les micro-fictions. Ça existe. Et d'accord. En France, on en a. On a Régis Geoffrey. Et il y a un auteur français trop méconnu. C'est Mon Combat. Depuis très longtemps, qui s'appelle David Thomas, qui est un spécialiste. Il a écrit notamment un recueil qui s'appelle La patience des buffles sous la pluie. Rien que le titre, quand même. Ce sont des histoires qui n'excèdent pas 2 pages. Parfois, c'est juste un paragraphe. Et c'est une technique très particulière parce qu'il s'agit quand même de raconter une histoire.
Et alors, l'histoire la plus courte du monde, vous
ça,
l'avez
c'est
trouvé?
Ma préférée. C'est une histoire écrite par Hemingway. Elle tient en 7 mots. On appelle ça une flash fiction. La légende, c'est une légende, veut qu'un jour Ernest Hemingway, donc au bistrot, fait un pari avec des amis, écrire l'histoire la plus courte du monde. Mais ça veut dire quoi une histoire? Ça veut dire une intrigue et de l'émotion. Et évidemment, en 7 mots, il faut faire confiance au lecteur pour imaginer le reste. Je vous la lis, vous êtes prêts? À vendre, chaussons pour bébé, jamais servi. Et voilà.
Ah ouais.
Et
c'est
en 7 mots, c'est fort. On imagine toute une histoire. Chacun imagine peut-être une histoire différente, mais toute la matière est là. Le reste, les descriptions, les considérations sur le monde, les différents personnages, tout ça, il suffit de les ajouter.
Formidable.
Super. Bravo. Quelle belle chronique.
Ah ouais. Merci voilà. Nicolas Carrefour.
Ça s'est rattrapé. Hein. Ça rattrape le Tour de France.
Merci. Merci Max Boublil. Sachez que Nicolas Carreau, il sera quasiment avec nous tous les jours pendant l'été. Merci pour tous vos conseils, Nicolas. Vous aussi, vous pouvez nous donner vos propres coups de cœur, un film, une série, un doc, même un livre ou une idée sortie près de chez vous. N'hésitez pas à composer le 3921 ou le hashtag Europe 1 sur les réseaux sociaux.
Europe 1, 9h-11h, le club de l'été. Anissa Haddadi et Thomas Hill.
C'est d'ailleurs ce qu'a fait Isabelle qui est avec nous. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où Isabelle ?
Alors je vous appelle des Portes en Ré où je séjourne depuis quelques semaines.
Ah, sur l'île de Ré, évidemment. Ouais. Et bah, vous avez
quelle
beaucoup
chance.
De chance.
Alors votre coup de cœur de l'été Isabelle, c'est un film oscarisé, Phaser de Florian Zeller avec Anthony Hopkins. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de le voir en salle, ça raconte quoi Phaser Isabelle ?
Eh bien, ça raconte l'histoire d'un octogénaire qui sombre peu à peu dans la maladie d'Alzheimer. Ce qui est très très fort dans ce film, c'est qu'au fur et à mesure qu'on rentre vraiment dedans, on entre dans le mental du personnage et on vit sa propre souffrance, mais aussi la tendresse qu'il éprouve pour ses proches, qu'il ne reconnaît pratiquement pas. Plus et de moins en moins au cours du film. Ça évoque aussi une tendresse infinie entre, malgré tout, l'amour qu'il a pour sa fille et inversement. Bien sûr, les acteurs jouent leur rôle d'une manière bouleversante.
Anthony Hopkins a d'ailleurs eu l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais en plus, on n'a pas l'habitude de voir Anthony Hopkins ni Olivia Colman dans ce genre de rôle parce qu'ils ont. Moi, j'ai vu des films où ils incarnaient des personnages vraiment forts qui ont le contrôle sur les choses. Et là, en fait, c'est tout l'inverse.
Et bien, ça s'appelle donc Phaser de Florian Zeller. C'est en salle depuis le 26 mai dernier. Merci beaucoup, Isabelle, de nous avoir fait partager ce coup de cœur. Et comme Isabelle, si vous aussi vous avez un coup de cœur, n'hésitez pas avec le hashtag Europe 1 ou le 3921.
Europe 1.
Dans un instant, reste avec nous notre deuxième indispensable. Louise Bernard va nous faire visiter Arcachon. C'est votre station de vacances, Max Boublil. Mais attention, on va visiter Arcachon, mais en courant. Va falloir chausser les baskets. À tout de suite.
À tout de suite.
Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi, Thomas Hill.
On est ensemble encore quelques minutes jusqu'à 11h pour ce club de l'été. Et chaque jour, Louise Bernard nous dégote un bon plan en région, chers auditeurs. Et c'est également pour notre invité aujourd'hui,
c'est
Max
Boublil. C'est très gentil, merci. Je suis très gâté.
Direction Arcachon.
Exactement, votre lieu de vacances, on en a beaucoup parlé.
Ouais.
Alors sachez que vous apparaissez même dans un article de Capital intitulé « Bassin d'Arcachon, les bonnes tables où croiser stars, patrons et notables ».
Ah ouais, ça y est, mon lit là-dedans, putain, c'est j'ai réussi maintenant. C'est fou.
C'est création, quoi.
Ouais, je me souviens, je disais ces trucs, ouais, à côté de qui ? C'est ça aussi, pour voir à côté
vous
de qui.
Vous lirez, je vous l'enverrai.
Si c'est Bernard Montiel, c'est moins de place.
Il faut arrêter avec Bernard Montiel.
Oh, salut Bernard.
Alors ce matin, pas question de restaurant, mais plutôt d'un bon plan pour visiter la ville. J'ai trouvé une guide qui propose des visites ludiques d'Arcachon. Bonjour Virginie Bernard.
Oui, bonjour à tous.
Merci
bonjour.
D'être en direct avec nous. Vous êtes guide conférencière et vous avez lancé un concept de footing culturel. Expliquez-nous en quoi ça consiste.
Oui, bah écoutez, c'est dans le titre. En fait, hein, j'étais la première à proposer ça quand je me suis installée sur Arcachon. Du coup, ça n'existait pas. Donc, c'est même mes collègues qui m'ont donné l'idée. Écoute, t'es sportive, tu cours. Pourquoi tu ne fais pas visiter Arcachon en courant ? Bah, écoutez, j'ai dit oui, bah, c'est super. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais déjà en accompagnement de groupes d'Américains en Europe. Je connaissais pas les villes et du coup le groupe arrivait et il fallait bien que je leur propose quelque chose à visiter. Du coup je mettais les baskets et puis je découvrais Barcelone, Madrid, Rome vite fait en 2 heures et c'est un concept qui est pratique.
Et là sur Arcachon, qu'est-ce que vous racontez ? Vous faites visiter plusieurs parties de la ville, c'est ça ?
Oui, ben Arcachon c'est la ville des 4 saisons, donc le côté pratique du running culturel là, c'est de présenter, alors évidemment pas aussi en détail qu'une visite de 2 heures de la ville d'automne ou de la ville d'hiver, mais je fais les petits quartiers d'Arcachon en 1 heure et demie.
Mais vous les commentez aussi alors, parce que vous courez,
oui, oui,
vous courez
commenté.
Vous commentez en même temps alors du coup c'est...
Tu cours,
oui,
tu commentes alors... essoufflé quoi.
Ah ouais, ça doit être dur.
Non, 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 je peux pas
courir. Ah, c'est la maison, ah, Bernard Montier.
Et là, c'est MacBoublil.
C'est pas deux, hein, Bernard. Ah, Bernard.
Non, mais c'est vrai, ça doit être difficile pour vous.
Non, 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 non. Autant il y a des personnes qui peuvent courir en parlant, moi je ne peux pas. Donc du coup, j'ai bien organisé ma visite pour qu'on court et qu'on s'arrête. C'est pas pour des marathoniens en fait.
D'accord.
Oui, c'est ça, faut qu'il y ait niveau sportif.
Oui, d'accord.
C'est 6 kilomètres, c'est 6 kilomètres plus 2, on va dire, en ville d'hiver. Donc c'est quand même sportif. Je pense qu'à la fin, on est bien rincés. Surtout que la ville d'hiver, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, mais du coup, par exemple, en ville d'hiver, je ne fais que marcher parce que je peux pas m'arrêter à chaque villa pour commenter. Mais c'est sportif, mais c'est pas fait pour les marathoniens qui cherchent à faire 10 kilomètres sans s'arrêter. C'est pas du tout le concept, en fait. C'est découvrir une ville en gardant sa forme.
Et un dernier mot, Virginie, parce que vous proposez également une autre visite, une autre façon de visiter Arcachon. Là, c'est sur les secrets et les mystères.
Une visite bourrée.
sur les secrets et les mystères d'Arcachon, là, on ne court pas. Hein. Comment ça se passe en quelques mots?
C'est une belle balade de 2 heures. Je dis belle parce que du coup, il faut quand même être en forme. On ne court pas, mais je pars de la ville basse, je vais jusqu'au fin fond de la ville d'hiver. Et là, je vais... voilà, je voulais lancer quelque chose qui, encore une fois, qui n'existait pas. Et quelque chose qui sort de la visite historique de 2 heures avec un guide conférencier. Voilà, quelque chose où on parle de choses insolites, mystérieuses, quelque chose qui accroche. Voilà, où les gens se disent waouh, ah oui, ça
y a une maison hantée ou pas là-bas?
Je ne dirai pas.
Ah, il y a une maison hantée, génial, j'adore.
Il y a
une
légende ou pas? Visite.
Oui, il y a une légende d'une.
Maison de la ville d'hiver?
Je ne dirai pas.
Ah, vous dire,
très secret. Comment est-ce qu'on fait pour réserver ces visites?
Alors en fait, voilà, je n'ai pas encore commencé. Enfin, je commence tout juste le côté marketing com. Du coup, j'ai juste une page Facebook pour l'instant.
C'est parfait.
My private. Alors c'est en anglais.
Ouais.
C'est My Private Local Guide Arcachon, quelque chose comme ça. Voilà. Et My Private Arcachon Local Guide, voilà. Et du
parfait.
Coup, vous trouvez les visites et les gens peuvent m'envoyer un email.
Et voilà. Bah parfait. Merci beaucoup Virginie Bernard d'avoir été en direct avec nous ce matin.
Merci
beaucoup.
Merci Virginie. Restez avec nous sur Europe 1, c'est le club de l'été de Max Boublil. On était à Arcachon. Il y a une autre passion que vous avez en plus d'Arcachon, en plus de l'été,
c'est
Max.
Quoi?
C'est la gastronomie. Vous êtes un bon vivant, vous
oui,
aimez
c'est
ça.
C'est vrai, j'aime bien manger.
On va passer un coup de fil à un grand chef dans un instant, juste après ce petit bonbon de l'été qu'on vous fait découvrir sur Europe 1. Doja Cat, vous aimez Max?
J'adore.
Kiss Me More sur Europe 1. Très belle matinée.
Moi, plus.
Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi, Thomas Hill.
Les dernières minutes du premier club de l'été avec Max Boublil, notre invité. Dans un instant, on va passer à table avec un très grand chef qui va nous donner une de ses recettes. Mais avant cela, Max, on va parler un peu de vos étés qui sont bien différents de ceux de Malik Bentala, je crois.
Ouais, ça, c'est un truc dont je parle. Dans le spectacle, je raconte que... non, parce que l'été, il y a un été, il y a 2 ans, juste avant le Covid, où Malik, il était parti... C'est un copain à moi, il était parti au festival de Coachella avec DJ Snake.
Ah ouais.
Et il était parti là-bas en jet privé. Son meilleur copain, c'est DJ Snake. Et il mettait ça en story sur Instagram. Et moi, le même week-end, j'étais à l'anniversaire de Pierre Palmade avec Régine.
Ah ouais, rien à voir.
Et je me souviens que j'étais un peu jaloux. Voilà, ça m'a rendu un peu jaloux. Mais je le voyais avec Nicki Minaj et tout, en train de faire des stories. Moi, je fais des stories avec les chevaliers du Fiel.
Vous aussi,
perdu
vous êtes
showbiz
un
quoi.
Peu.
Mais
voilà,
je suis sûr
c'est pas le même showbiz. Mais moi, j'ai trop rigolé.
Bien sûr.
Je suis sûr qu'on sait plus s'amuser de mon côté.
Mais bien sûr. Et dites donc, il est bientôt 11h. Il va falloir commencer à penser à l'apéro.
Voilà.
Aujourd'hui, direction le sud-ouest pour rejoindre un chef que j'adore. C'est Fabrice Mignot. Salut Fabrice.
Bonjour.
Bonjour
Comment
Fabrice.
Ça va Fabrice? En forme?
Et ouais, en forme. C'est un peu fatigué quand même, parce qu'on se fait pas mal exploser, nous, de notre côté. Il y a pas mal de monde, donc un peu fatigué quand même.
Ah, y a beaucoup de monde dans vos deux restos. Le premier, c'est Biquet Plage, qui, y a un petit indice dans le nom, se trouve donc au bord de la plage, hein, c'est ça?
Exactement.
Et c'est une sorte de grande paillote que vous démontez, du coup, chaque année?
Oui, il n'y a rien du tout. C'est vraiment sur la plage, on monte tout nous-mêmes. Ça dure 4 mois, donc c'est de l'éphémère.
Ouais.
Et on doit se mettre en place assez rapidement, parce que là, du coup, on a vraiment eu beaucoup de monde dès le départ. Donc ça reste de la restauration quand même, on va dire, difficile, parce que tout est éphémère, tout est à construire, c'est mais c'est vraiment cool d'être sur la plage.
Et votre second resto est, lui, sur une autre plage, cette fois au Cap d'Agde, et oui. Donnez-nous son nom.
Il s'appelle « Nudisme interdit ». Mais
et c'est vraiment mais interdit, forcément... parce que Max, il aurait bien aimé venir, éventuellement.
Eh oui, oui, je comprends, mais là, c'était un petit clin d'œil parce que le premier restaurant, on avait une vieille pancarte avec écrit « Nudisme interdit », et quand on a racheté au Cap, on s'est dit « bon, on va pas déconner, on va l'appeler quand même comme ça ». Et du coup, au début, c'était un peu difficile à faire comprendre, mais ça va, ça se passe bien.
Et alors, j'imagine que cette année, comme pour tout le monde, elle a été un peu compliquée, mais alors finalement, du coup, vous êtes sur une ouverture qui est très saisonnière, donc vous avez peut-être un peu moins été touché que les autres restaurateurs par la crise sanitaire, non ?
Non, on va pas se mentir, nous, on est les gagnants de cette crise, car nous, dans tous les cas, quand les restaurants étaient fermés, on était fermés. Donc on ouvre quand les restaurants ont pu ouvrir, donc non, ça serait malvenu de se plaindre.
Et là, il y a un monde de dingue en ce moment, parce que tout le monde veut aller au restaurant, quoi.
Bah là, nous, sur juillet, août, les week-ends, on est complet sur juillet, on est complet tous les week-ends sur un des restos, et sur l'autre, ça va pas tarder aussi, oui.
Bon, Fabrice Mignot, on a envie de saliver. Est-ce que vous pouvez nous donner un plat qu'on retrouve à la carte aujourd'hui, et peut-être une petite idée, recette toute simple pour cet été?
Alors, il y en a un qui est très facile, tellement facile que même Thomas pourrait le faire. Parce que je le suis un peu comme cuisine sur Instagram et c'est pas évident. Quand même.
Je me débrouille.
Il y en a un qui demande pas de technique, c'est pour ça que je le conseille souvent. C'est le ceviche. Ceviche, on va dire que même si la taille du poisson elle est grossière, c'est pas, on va dire, gênant. On peut même demander à son poissonnier de déjà lever les filets.
Ceviche, il faut favoriser. On part de
dorade, ouais, voilà, favoriser un poisson blanc.
Dorade, loup.
Donc, la dorade, le loup, c'est très bien. On le fait aussi avec le mulet. Mm-hmm. Donc, c'est un poisson qu'on trouve en Méditerranée qui a une chair un peu plus ferme. Et ça, c'est quand même pas mal. Et du coup, la recette est très simple. On va le cuire avec un citron vert, finalement, du jus de citron vert pur. Ouais. Donc, pas d'huile, pas comme un tartare. Il faut vraiment que le citron va cuire la chair du poisson. Donc, on va laisser une demi-heure avec le jus de citron. Et à côté de ça, il nous faut juste un blender. On met du lait de coco. Et là, il faut mettre pas mal d'aromates, avec par exemple de la citronnelle, du gingembre, on va y mettre un peu d'ail, d'oignon rouge, on mixe tout ça, donc ça va nous faire avec la coriandre quelque chose d'assez vert et un peu épais. Et au moment de servir, ce ceviche, on le met dans une assiette, autour on met ce qu'on appelle le leche de tigre, c'est ce petit jus de coco, leche de tigre. Pour le croquant, on met le même maïs qu'à l'apéro, là, vous savez, puis des petits maïs croquants, là. Ah. Hop, on met ça autour. Oh. On les trouve dans les supérettes pour l'apéro. Un peu d'oignon rouge, et c'est parti.
On est bien, là. Oh, c'est fou, il est 10h56, ouais. On a déjà fait.
Ah, ben là, je pourrais bouffer ça tout de suite.
Merci, Fabrice, vous nous régalez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est possible qu'on vous repasse un petit coup de fil au cours de l'été, d'ailleurs, hein, Fabrice. Hein.
Non, mais ça marche, merci.
Merci,
c'est super
Fabrice.
Régalez-vous
bien,
les
Parisiens.
Très bientôt. Et bonne chance pour cette saison. Merci beaucoup, surtout à Max Boubli, d'être passé au club.
C'était tellement sympa d'être avec vous et d'inaugurer cette émission. Je suis ému d'avoir été un des premiers invités, d'avoir eu ces beaux cadeaux. Je repars le cœur lourd de souvenirs
et avec
les bras
pas mal
chargés
de nouveaux
de cadeaux,
amis comme Laurent Luya
et des nouveaux amis comme
Bernard
Luya et Bernard Montiel.
Est-ce
aussi.
Que vous avez eu envie de partir en vacances? Est-ce qu'on vous a donné envie de,
que vous
partir
avez envie de partir pendant l'émission?
Ah oui, ça serait horrible.
Partir en vacances, c'est une émission qui donne envie de partir en vacances, c'est ça.
Très bien. C'est
ça, donne envie de découvrir toutes ces régions.
Et demain, notre invité sera Bérangère Krief, que vous connaissez forcément.
Bien sûr, Max, que j'adore et dont j'apprécie
et
beaucoup le travail.
Et on rappelle que Max est à Avignon du 11 au 16 juillet pour son spectacle, nouveau spectacle, et surtout à Paris 19 et 20 juillet pour les deux dernières dates au Théâtre
c'est
de la
filmé,
Renaissance.
Là, ça sera filmé, le ça spectacle, sera filmé. Ça sera terminé.
Et surtout, il y a une énorme surprise, vous n'avez pas voulu nous dire laquelle. Alors allez voir Max et dites-nous, vous nous rappelez au 3921 pour nous dire.
Que Bernard Montiel passe une petite tête.
Non,
on peut pas en dire plus. Allez, tout de suite, c'est Philippe Goudler qui va poursuivre le voyage. Salut Philippe, on part où ?
Bonjour les amis.
Salut Philippe.
Moi, je suis content parce qu'on repart tous ensemble très très loin. On va partir au Panama, un pays qu'on connaît trop peu. C'est de la jungle luxuriante, c'est du bleu mer Caraïbe, c'est un canal incroyable. Et c'est surtout des Panaméens qu'on connaît trop mal. Dans un tout petit instant sur
Chouette.
Europe 1.
Premier départ qui donne envie et on sera là avec vous jusqu'à midi sur Europe 1. Bonne journée Philippe Googler et à demain dans le club de l'été avec Bérangère Krief. Merci Max Boublil.